Alors le thème de la du séminaire de ce soir, c'est le travail, production de valeur ou création de relations, que Moshe a sous-titré autour de l'évolution de la notion de avoda dans la Torah. Alors ce qu'on va faire pour une grande partie de la présentation, c'est prendre le texte et puis regarder comment se développe cette avoda dans le récit de la création. Pour ça, on va partir de la première confrontation de l'homme avec le terme de avoda. Alors, cette première confrontation se trouve dans Bereshit, verset 2.15, que vous pouvez trouver à la première page des feuilles polycopiées. Donc, à gauche. Donc on y dit Vayikar Hachem Elohim. Hachem Elohim, il a pris Et Adam, l'homme, Vayani Rehu, Began Eden, et il l'a placé dans le Gan Eden, Leovda ou le Shomra, pour la travailler et pour la garder. Alors, je conserve les irrégularités de genre qui sont dans le texte, parce que en hébreu aussi, jardin est masculin, et les Ovda et les Shomra se rapportent à un féminin. Donc on aura déjà à élucider ça par la suite. Alors, sur ce verset, on peut faire quelques remarques simples. Tout d'abord que, contrairement au verset qui suit, où il est fait la première injonction à Adam, en disant « Veillez de ça, Vachem, Elohim, à Adam, les morts, l'Éternel Dieu a ordonné sur l'homme, en disant « De tout arbre du jardin, mangez, tu mangeras », dans notre verset qui nous concerne ici, il n'est pas fait mention d'adresse explicite à l'homme. Il n'y a pas besoin que Hachem parle à l'homme pour qu'il comprenne qu'il faut travailler dans cette situation. Comme si c'était naturel, comme s'il pouvait comprendre ce qui lui arrivait dans cette situation. La deuxième remarque, simple aussi, c'est que on parle d'une confrontation de Adam Harishon au travail dans le Gan Eden, c'est-à-dire dans un endroit où tout se trouve à profusion. Donc c'est étonnant, qu'est-ce que c'est que cette situation-là où on demande à un homme, à Adam, de travailler alors qu'il a tout à sa disposition. Pour nous aider à répondre, on va revenir à la première occurrence quelques versets plus haut, donc qui n'est pas la confrontation à proprement parler, mais la première apparition du terme de Avoda dans le texte de la Torah. On va garder nos questions pour la suite. Alors, la première apparition du mot Avoda se trouve au verset 5. Vechol siar asade terem yebaaretz, et toute pousse du champ n'était pas encore sur terre. Vechol esev asade terem yitzmar, et toute herbe du champ n'avait pas encore poussé. Donc, pourquoi tout ça? Qui lo imtir Hachem Elohim ala Adam, parce que Hachem Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur terre. N'avait pas fait pleuvoir sur terre. Ve Adam aïn laavod et Adama, et d'homme il n'y en avait pas pour travailler laavod la terre. Alors faisons une lecture obvie du texte. Les végétaux ne sont pas encore apparus sur terre du fait d'un double manque. Premièrement, il n'y a pas de pluie, pas comme ce soir. Et l'homme, pour travailler la terre, il n'y en a pas. Donc il manque l'homme et la pluie. De ces observations, on peut dire que le travail ici semble entendu comme facteur de production. C'est-à-dire que pour que ça pousse, il faut le travail de la terre par l'homme. C'est-à-dire que l'action de l'homme va, a priori, avoir une conséquence sur la terre et ça va faire pousser. Et on a une double condition pour que la végétation pousse, c'est-à-dire la pluie et le travail de l'homme. Alors, et voyant cela, comment est-ce qu'on peut ne pas s'étonner des versets qui suivent, qui disent, regardons dans le texte, verset 8, Vaïta Hachem Elohim Gan Beeden, Hachem Elohim planta un jardin dans Eden, Mikedem à l'Orient. Vayasem Sham et Adam Asher Yatsa, et il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Donc pour l'instant, il n'y a pas de travail de l'homme. Vayitzmar Hachem Elohim Mina Adama Kol Etz Nermad Lemare Vetov Le Ma'achal. Et l'Éternel Dieu fit pousser de la terre tout arbre agréable à voir et bon à manger. Donc on voit que ça pousse. Et au verset d'après, on nous parle de Nahar, c'est-à-dire de fleuve. Donc il y a de l'eau pour arroser l'Éden, mais pas de pluie. Donc ça pousse sans qu'il n'y ait aucune des conditions préalablement énoncées par le verset 5. Si l'on continue notre lecture, on arrive au verset par lequel on a commencé, le verset 15, et on y dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le posa dans le jardin d'Éden pour la travailler et la garder. » Donc Adam est mis dans le jardin d'Éden, riche de toutes ses possibilités et avec l'évidence du travail. Bon, on sait qu'il doit travailler là-dedans alors que tout avait été mis au préalable. Alors, pour essayer d'avancer, on va essayer d'interroger l'irrégularité que l'on avait soulevée dès le départ, c'est-à-dire le féminin, le Ovda ou le Shomra. Le Ovda ou le Shomra, ça semble nous renvoyer au verset 5, c'est-à-dire Adam Aïn Lavod et Adama, il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre, il s'agit de la terre. Donc là, on nous parle d'un verset qui est dans un contexte de Gan Eden, sans que l'on parle du Gan Eden, et l'on nous parle de la terre. Bon. Cette anomalie grammaticale nous renvoie à notre questionnement. Comment en effet comprendre cette contradiction dans la présentation de la notion d'Avoda dès les premiers instants de la création? Et quel sens peut-on donner à cet emploi de Avoda, précisément dans un environnement qui appelle plus à la consommation qu'au travail? Alors, Rashi va nous aider là-dessus. Donc, regardons le Rashi sur le verset Tet. Vayitzmar, c'est à l'endroit de la petite flèche verticale. Vayitzmar, Rashi nous dit « Les inyan agan akatuv medaber » L'écriture nous enseigne sur le Gan, sur le jardin d'Éden. En disant cela, Rashi crée un espace dans le jardin et un espace en dehors du jardin, ou plutôt on peut dire qu'il crée notre intérêt pour cet endroit en contraste avec le Gan Éden. Dans le Gan, Hachem a fait pousser toute la végétation et en dehors du Gan, il n'y a aucune pousse. On pourrait alors ajouter, dans la même veine, que dans le jardin, il y avait une très bonne irrigation avec les quatre fleuves, mais en dehors, pas de pousse, sans pluie et sans travail humain. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas là-bas que Hachem a voulu que l'homme évolue, mais bien dans le Gan Eden. Se repose donc la question: quel est ce travail qu'Adam Harishon avait à faire dans un lieu où tout était déjà fait? Bon, pour avancer dans notre questionnement, on a fait appel à plusieurs textes. Premièrement, le Midrash sur le verset 2.15, Bereshit Rabba 16.15, que vous trouverez dans les photocopies que je vous ai distribuées. C'est la page 3. À l'endroit de la petite flèche. Davar Acher, donc explication sur Leovda ou le Shomra. Leovda ou le Shomra, travailler la terre, la travailler et la garder, Elou à Korbanot. Il s'agit des sacrifices. Non. Chez Neymar, comme il est dit, Ta'avdun et ha'elokim. Vous servirez le Elohim. Et plus loin, il est écrit Tishmeru le'akriv li bemoado. Vous veillerez à m'offrir des sacrifices. Donc les deux termes, l'avoda et la shmira, sont entendus comme se rapportant au korbanot. Au-delà du jeu de mots entre avoda travail et avoda service, quel est le sens de ce rapprochement? On s'était interrogé sur la finalité du travail en désignant la terre, et voilà que les chachamim nous en substituent l'objet, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il s'agissait de travailler la terre, et là, dans le Midrash, on nous dit de servir Hachem. Et le verset que le Midrash cite à l'appui de sa lecture Avoda Service, Korbanot, c'est le verset « Vous servirez le Elohim » dans Shemot 3.12, et ça, ça a été dit lors de l'épisode du buisson ardent, lorsque Moshe demande à Hachem à quel titre il pourra oser se présenter au Pharaon et par quel mérite les Bnei Israël accéderont à la liberté. La réponse, c'est que la réponse apportée par Hachem, c'est que ce sera à cause du service que les Hébreux feront au futur, au Har Sinaï, Ta'avdun, vous servirez, qu'ils sortent. D'abord une promesse et ensuite un travail. On retrouve cette même inversion résultat-travail évoquée à propos du Gan Eden, où Adam a d'abord la profusion et ensuite il travaille. Normalement, dans une avoda au sens d'un travail méritant salaire, le travail devrait précéder le salaire, c'est-à-dire la délivrance. Or là, il y a inversion, et cette inversion nous fait penser à l'inversion de la place du travail dans le verset de Bereshit. Donc on va garder ce texte en mémoire, et puis on va solliciter une autre source. Ça se situe dans les Avot de Rabbi Nathan au chapitre 11, que vous trouverez page 4. Donc, Rabbi Shimon ben Eleazar dit « Gedola amlacha, grand est le travail. » C'est les deux. Donc ça se trouve au numéro 2. Rabbi Shimon ben Eleazar Omer. Il n'y a pas de la mélacha. C'est dans un autre. Alors, on va vous lire. D'accord. Alors, Rabbi Shimon ben Azar dit Gedola Mlacha, grand et travail. Donc, c'est pas directement dans les avot de Rabbi Nathan. C'est dans un commentateur. C'est cité. Une autre version. D'accord. Une autre version du texte qui n'est pas celui qu'on vous a présenté ici. Donc, toujours est-il que Hachem a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le travailler et pour la garder. Et seulement. Rabbi Shimon ben Eleazar a dit que grand est le travail, donc c'est pas présenté là-dedans, parce que même Adam Harishon n'a rien goûté jusqu'à ce qu'il travaille. Donc Af Adam Harishon, vous pourrez voir dans le texte, comme il est dit, et Hachem le plaça dans le Gan Eden Leovda ou le Shomra pour travailler et pour garder, et seulement après Hachem l'invite à consommer en disant manger tu mangeras de tous les arbres du jardin. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient nous dire « même Adam Harishon » ? D'après ce texte, c'est justement la non-justification de ce travail, le fait qu'Adam ait pu consommer avant de travailler, puisque tous les arbres de fruitiers avaient déjà tous leurs fruits. Donc ça nous oblige à avoir dans ce travail une autre finalité. Et c'est à cela que les avots de Rabbi Nathan font allusion en disant « grand » et le travail. cette autre finalité. Bon, c'est une grandeur de ne pas travailler pour le résultat que l'on souhaite, semble-t-il. Alors, on entrevoit une réponse à la question de savoir de quelle grandeur il s'agit dans le détournement que les Chachamim ont fait en liant le sens de Avoda au Korbanot, c'est-à-dire il y a une brisure entre l'acte de travailler et le résultat. Et c'est justement le détournement, le passage de l'un à l'autre, tout ça, ça nous interpelle. Voilà. Donc, alors que nous avions vu au début de notre présentation, dans les versets, une chaîne de causalité entre travail et production, ici, nous sommes forcés d'accepter une cassure entre les deux termes. Adam reçoit, après son travail, l'autorisation de consommer des fruits qui existaient déjà avant ce travail, ce qui veut dire que le travail n'est pas là pour produire. Donc, continuons avec la vote de Rabbi Nathan sur le terme de Avoda. Donc, ça se trouve numéro 1, ça. Donc, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera a dit Mi she ein lo melacha lasot, celui qui n'a pas de travail à faire, ma yaase, que fera-t-il? Im yeshlo chatser chareva, s'il a un champ, une cour abandonnée au sade chareva ou un champ abandonné en friche, yeler vaït asek ba, qu'il aille s'en occuper, chez Nehemar, comme il est dit, shechet yamim ta'avod, pendant 6 jours tu travailleras, c'est le verset des 10 commandements, non? 6 jours tu travailleras, et tu feras tout ton travail, ve'asita kol melartecha. Donc il y a, semble-t-il, une redondance entre la avoda prescrite et la melacha. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ton travail. Que vient nous inclure et tu feras tout ton travail? Ça vient nous inclure le cas où un homme a déjà subvenu à tous ses besoins, a déjà un salaire. Il ne doit pas rester inactif et il devra mettre en valeur ses possessions. Donc le pasouk emploie dans le premier cas le terme de avoda et dans le deuxième cas le terme de melacha. Et notre idée, ça a été la suivante, c'est que avoda, c'est à rapprocher de avdout, service, dans le sens où ce n'est pas la réalisation de mon travail qui est finalité, mais le salaire qui en résultera. Alors que dans Melacha, la réalisation est elle-même le but à atteindre. Donc ça semble étonnant, parce qu'on aurait pu croire que, anthropologiquement parlant du moins, l'homme est dû d'abord devenir autosuffisant, venir à ses propres besoins et puis ensuite vendre un surplus pour se mettre en relation avec l'extérieur. Là, on nous dit le contraire. C'est d'abord travail pour une finalité extérieure et ensuite, si tu as le temps, si tu as le loisir, tu pourras faire des actions dont tu pourras profiter de ses conséquences. Donc là, dans le terme de Avoda, on retrouve bien cette brisure dans la chaîne de causalité travail-production. Et on voit que cette brisure est quelque chose d'essentiel dans la notion de travail. Cette brisure se retrouve en réalité déjà dans l'idée de salaire. La véritable chaîne de causalité serait la chaîne de production elle-même, où le producteur serait le consommateur. En revanche, dans l'idée de salaire, on fait entrer la notion de fraternité, citée la semaine dernière par Jean-David, en acceptant que le fruit de mon travail profite aux autres. Même si je reçois de l'argent, le fruit de mon travail va quand même aux autres. Dire que la forme travail-salaire est première par rapport à la forme travail-production, c'est dire que cette notion d'ouverture, c'est quelque chose d'essentiel dans la notion de travail. On avait déjà vu la relation entre fraternité et créativité. Maintenant, on découvre la relation entre la fraternité et le travail lui-même. Le travail, on vient de le voir, avant d'être relation, avant d'être réalisation, est donc une relation. Cependant, si nous avons établi le sens du travail avoda comme étant une ouverture sur les autres, les Chachamim vont encore plus loin en rendant ce travail par un travail au service d'Hachem, les korbanot, comme on l'a vu dans notre midrash, notre premier midrash. Alors, est-ce que les Chachamim nous parlent d'ouverture vers Hachem parce que c'est la seule ouverture qui s'offre alors à Adam à ce moment-là, étant seul? Ou bien retrouve-t-on ici l'idée que la seule vraie ouverture qu'un homme puisse avoir, c'est vers Hachem? Donc, essayons de voir maintenant où peut nous mener cette distinction entre Avoda et Melacha, et puis en dégager une autre idée. C'est la distinction entre Melacha et Avoda dans la finalité du travail, où la Melacha désigne une œuvre, une production, par opposition à Avoda, où la finalité dépasse la réalisation elle-même pour s'ouvrir vers l'autre. Cette distinction-là serait peut-être une base pour définir la Avoda Zara. D'après Moshe, c'est la confusion entre une Avoda ouverture et une Melacha qui définirait l'idolâtrie. Limiter l'ouverture à ma Avoda, à ma réalisation, c'est ce dont un verset parle. Nous n'appellerons plus notre Dieu œuvre de nos mains. Velo noma od. Eloheinu lemaase yadeinu. La Avoda Zara, ce serait nier l'altérité du service, c'est prendre la Melacha pour l'objet du service, c'est rendre un culte à l'œuvre de nos mains. Prétendre établir une relation avec mon œuvre, c'est cela l'idolâtrie. Voilà ce qu'on peut dire de la dracha que font les Chachamim sur le verset Leovda ou les Shomra. Qu'on a dit que ce sont les korbanot, travaillent dans le sens du sacrifice. Maintenant, essayons de voir ce que disent ces chachamim dans le premier verset qui évoque le travail. Le premier verset, je vous rappelle brièvement, c'était le verset 5, où on disait que toute excroissance des champs n'avait pas encore poussé sur terre, et toute herbe du champ n'avait pas encore fleuri. Kilo imtir Hashem Elokim, car Hashem Elokim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler la Adama. Alors, Rashi va commenter ce texte-là, et puis on va essayer de comprendre à partir de son commentaire. Alors, dans le texte, c'est la flèche horizontale. Donc, alors, toute croissance des champs n'avait pas encore eu lieu. Rashi demande « Velama ». Et pourquoi cette croissance n'avait pas encore eu lieu? Qui Lohim tire? Car Hachem n'avait pas encore fait pleuvoir. Ou Mataam Lohim tire? Et pour quelle raison Hachem n'avait pas fait pleuvoir? Les fiches chez Adam Aïn Lavod et Adama. Car il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Rashi voit ici deux conditions, mais imbriquées l'une dans l'autre, et non pas, comme nous l'avions vu au départ, deux conditions séparées. Et on a vu, première condition, manque de travail, deuxième condition, manque de pluie. Rashi dit que le manque de pluie est conditionné par l'absence de travail de l'homme. Alors, maintenant, Rashi va citer un midrash sur ce Lahavod et dit que Ein makir betuvatan shel geshamim. Il n'y avait pas d'homme pour apprécier et reconnaître la bonté de la pluie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Adam a été créé, il a pris conscience de la nécessité de la pluie, et alors à ce moment-là, après cette prise de conscience, il a prié pour la pluie. À ce moment-là, la pluie est tombée et la végétation a poussé. On a ici une double interprétation du terme avoda. Premièrement, reconnaissance du bienfait de la pluie, et deuxièmement, la prière, la tfila. Ajoutons une remarque pour dire que l'énoncé de Rashi est bien conforme à notre modèle d'inversion qu'on a vu tout à l'heure, où la plénitude précède le travail qui la justifie. Donc, comme nous l'avons vu à la fois dans la deuxième occurrence de Avoda dans le Gan Eden et aussi à propos de la sortie d'Égypte, où c'est la sortie qui précède le service. Donc, Rashi nous éclaire par sa formulation Ein makir betuvatan shel geshamim. Il n'y avait pas d'homme pour reconnaître le bienfait de la pluie. Le sens de cette inversion, c'est la nécessité d'une prise de conscience avant tout avoda. Adam est mis dans une situation d'abondance, dans le jardin riche d'arbres et irrigué par les quatre fleuves. C'est à partir de cette situation-là qu'il pourra travailler la terre, c'est-à-dire prendre conscience du bienfait de l'eau par les fleuves et de la nécessité de la pluie pour les terrains qui ne sont pas irrigués de la sorte. Si ce modèle-là est généralisé, c'est pour nous apprendre que la véritable prise de conscience du manque est rendue possible par un vécu antérieur du bien. Alors, c'est peut-être un enseignement célèbre des Chachamim que l'on peut retrouver ici, à propos de la vie intra-utérine du fœtus. On dit en effet qu'il apprend toute la Torah avant de l'oublier à sa naissance. Au-delà d'une particularité relative à l'étude de la Torah, on retrouve cette idée de la nécessité d'avoir goûté à un bienfait au préalable pour pouvoir en ressentir véritablement le manque. La avoda semble donc liée à la compréhension du manque qui peut être vécu de deux manières, on va le voir, une erronée et une juste. Donc la première manière de vivre ce manque, c'est de vouloir le combler et de ne pas reconnaître son caractère essentiel, de rechercher la plénitude en niant le manque. La deuxième manière de vivre ce manque, celle que l'on dit juste, c'est la relation avec l'autre. La réponse vient de l'extérieur et le manque est précieux en ce qu'il m'incite à m'ouvrir sur l'autre. Le travail de l'homme serait de prendre conscience de l'inachèvement du monde et le propre de la terre serait d'être en manque. Reconnaître que le manque est essentiel, c'est dire que je n'ai pas dans mes mains la possibilité de combler le manque, c'est créer une ouverture qui permet de s'adresser à Hachem et c'est une définition que l'on peut donner du tzaddik. Un tzaddik, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui ne vit pas ce manque sur le mode d'une détresse, mais quelqu'un qui s'en sert comme tremplin et qui pratique une avoda. Dans ces deux manières de vivre le manque, on retrouve la divergence mentionnée la semaine dernière par Jean-David entre différents commentateurs sur la nature de la relation à la terre. La terre, comme nous venons de le dire, est en manque de manière essentielle. Elle devrait inciter l'homme qui la travaille à vivre ce manque. C'est pourquoi, pour les Chachamim, le travail à la terre relève de la conception de la Avoda. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont poussé l'ouverture jusqu'à Hachem sans s'arrêter à l'ouverture vers mon prochain. Vivre le manque de manière essentielle et non accidentelle, c'est forcément se tourner vers le Créateur. Alors précisons ici que la terre devrait inciter l'homme à vivre le manque. Et le danger, c'est que cette confrontation au manque suscite en nous le désir de le combler, donc de le nier. La volonté permanente de combler un manque qui ne se laisse pas nier, c'est l'image que donnent certains commentateurs du paysan qui, lui, est entièrement englouti par son occupation et ne vit pas ce manque. Alors, si l'on essaie de se résumer, on peut dire que les sages ont détourné le sens de la avoda vers la relation à Hachem. On peut faire référence à cette idée-là dans un passage de la Gemara dans Choulin, qui se trouve à la dernière page. Où l'on dit Ravasi Rami, Ravasi a soulevé, a objecté. Il est écrit Vatotsi Aretz Déché, et la Déché, et la terre a fait sortir des herbes. Alors, ça, Bitla Béchabata, cette idée-là, cette phrase-là, a été dite le troisième jour de la semaine. Et il est écrit plus loin dans le texte que l'on a lu, donc au sixième jour, Vekol siar asade terem yé baaretz, et toute herbe, toute excroissance du champ n'était pas encore poussée. Ça, c'est à la fin de la semaine. Alors, comment ça se fait que c'est pu pousser le troisième jour, et que le sixième jour, on dit que rien n'avait pu pousser? Alors, cela vient nous enseigner, mais la Met, chez Yatsou Deshaim, que les herbes sont sorties, Ve'amdu al-Petar Karka, et se sont tenues à la surface du sol le troisième jour, Ad Sheba Adam Arishon, jusqu'à ce qu'arrive Adam Arishon, ou Bikesh Aleem Chachamim, et prie pour ses pousses. Veyardou Geshamim, et les pluies sont tombées. Vetsamrou, et ces pousses-là ont poussé. Donc on voit bien cette idée que Hachem attend de l'homme qu'il émette une prière. Les lamdecha, c'est ce que dit la suite de la Gemara. Les lamdecha, c'est pour t'apprendre. Chez Akadosh Baruchou, mitave, litfilatan, shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu désire la prière des justes. Il désire que l'homme émette une prière. Donc il nous met dans une situation où l'on va ressentir un manque et se tourner vers lui. Donc la Gemara donne un exemple par la suite, je dis rapidement. Rav Nachman Bar Papa avait les Haïginta. Rav Nachman Bar Papa avait un jardin. Sadele Bizrani, il y a jeté des graines. Vélo de Samar. Et ça n'a pas poussé. Donc il avait une terre. Il a semé. Visiblement, tout était réuni pour que ça pousse. Mais ça n'a pas poussé. Baer Hachame. Il a prié. At Mitra, à ce moment-là, la pluie est venue. Vetsamar, et ça a poussé. Amar, Aïnou de Ravasi, il a dit. J'ai compris, Ravasi. C'est ce que dit. C'est ce que Ravasi disait. Donc de là, on peut dire que Hachem place l'homme dans une situation a priori bloquée, absurde peut-être, pour qu'il se mette à prier. Et la avoda consiste à débloquer ces situations non naturelles, à rétablir un état naturel. Même après la faute, c'est-à-dire après la sortie du Gan Eden, L'homme devra travailler pour rétablir l'équilibre. Et le prototype de ce travail, de la avoda, ça restera la tfila. Alors justement, on va voir ce qu'il en est du terme de avoda après la faute. Le terme réapparaît un peu plus loin dans Genèse 3, 23. Vous avez la photocopie à la page numérotée 2. C'est tout en haut, le premier verset. Vaishalcheu Hashem Elohim Migan Eden. Hashem Elohim les renvoya. Le renvoya. Pardon. Du Gan Eden. La avod et Adama pour travailler la terre. Asher Lukar Misham, d'où il avait été tiré. Donc, dans ce verset, d'un point de vue midrashique, on a fait quelques recherches et on voit que les Chachamim ne font plus ce détournement de sens du travail de l'homme vers la prière. Et à ce moment-là, le travail semble entièrement orienté vers l'acte, non plus vers la parole, vers la tfila. Alors, on remarque qu'à la fin du verset, Asher Lukar Misham, d'où il avait été tiré, ça nous est dit. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Quelle est l'importance de nous dire la qualité de la terre d'où il avait été tiré? Est-ce que ça signifie que la terre d'où il a été tiré est différente de celle du jardin d'Éden? Ou bien vient-elle signifier un mouvement de retour d'Adam à une certaine situation originelle? Et quelle serait cette situation originelle? Au verset 2, 8 et 2, 15, donc c'est de 15, c'est le verset où l'on dit que l'homme a été mis dans le jardin pour la travailler et la garder. Et de 8, on dit aussi que l'homme a été posé dans le jardin, mais de manière plus générale, moins précise. Donc, à ces versets-là, Hachem saisissait l'homme créé avec la poussière de la terre pour le placer dans le jardin d'Éden. L'homme semble dans ces versets-là passif et il semble qu'Hachem prépare son jeu pour la suite et place ses pions, une passivité de l'homme. Rashi, lui, ne voit pas les choses exactement de la sorte et il prend le verbe vaïkar au sérieux, au sens propre. Et ce verbe vaïkar dénote le fait d'amadouer l'homme par des paroles. Donc Hachem va voir Adam, donc à l'extérieur du jardin, et puis essaye de lui faire désirer cette place dans le Gan Eden, comme si ce n'était pas si bien que ça, ce jardin. Alors, ça semble pas très attirant. D'après ce que nous venons de dire, on peut émettre l'hypothèse que c'est justement la perspective d'un travail où l'on devrait ressentir le manque dans une situation de plénitude qui semble difficile à Adam Arishon de vivre. Et c'est pour ça qu'il n'était pas, semble-t-il, très attiré par cette offre. Bon, toujours est-il qu'Adam s'est laissé séduire par les paroles d'Hachem et puis a été mis ou est allé plutôt dans le jardin. Donc on peut dire, à partir de ce qu'on a vu sur l'inversion où la plénitude vient avant le travail, qu'Hachem pratique un arrachement à crédit et que Adam allait devoir se montrer à la hauteur. C'est-à-dire qu'on le met dans une position et dans cette position, il devra se dire qu'il ne la mérite pas, qu'on lui fait du bien, et qu'il va faire un effort a posteriori pour justifier sa place. Le Midrash nous dit que ce crédit allait devoir attendre jusqu'à Abraham pour être remboursé, parce que Abraham, lui, pratiquera la démarche d'arrachement de manière active. Peut-être qu'Adam n'a été posé dans le jardin d'Éden que grâce à Abraham. Adam aurait dû se montrer à la hauteur de la démarche de son descendant, une démarche d'arrachement personnel. Or, ce qu'on voit dans la suite du récit, c'est que Adam n'est pas à la hauteur. Il échoue, ressort du jardin, pour maintenant acquérir le Gan Eden par son mérite. Donc, de là, entre l'exemple de Adam Arishon et l'exemple d'Abraham et aussi d'Adam Arishon devant conquérir sa place, on voit qu'il y aurait deux façons d'accéder à la Avoda. La première, c'est celle qui apparaît comme le projet d'Hachem pour Adam, qui sera repris par Israël lors de la sortie d'Égypte. C'est imaginer le manque à partir d'une situation de plénitude offerte par Hachem afin de se montrer à la hauteur d'un tel salaire par une avoda qui justifierait ce salaire a posteriori. Par exemple, ce serait prendre conscience de la nécessité de la pluie alors que je suis dans le Gan Eden, pleinement irrigué. Et c'était ce défi-là d'imaginer le manque dans une situation de plénitude qu'Adam a échoué. La deuxième voie d'accès pour accéder à la Avoda, celle que pratiquera Abraham et aussi Adam après la faute, c'est une façon qui apparaît comme un deuxième choix, c'est retourner dans le manque. Il y a de contraintes cette fois-ci, Hachem nous place là-dedans, pour cette fois-ci imaginer la possibilité d'une replénitude afin de pouvoir prier pour sa réalisation. Donc on a fait le tour des idées que Moshe voulait vous présenter. Alors, en titre de conclusion, comme ça clôt en plus le troisième cycle, on va essayer de répondre à la question qui était le travail une valeur. Donc nous avons cité la réponse des Avot de Rabbi Nathan qui dit clairement Gedola Amlacha, grand est le travail. Donc oui, d'après l'Avot de Rabbi Nathan, le travail est une valeur, mais Moshe a dit on pouvait s'en douter que le travail est une valeur. Il nous restait encore à essayer de définir de quelle valeur il s'agissait. Ce cycle s'est proposé d'y répondre de trois manières. Rav Grunstein nous a expliqué l'impératif d'être créatif, essence même de la créature humaine, créée à l'image du Créateur. Jean David a opposé deux conceptions du travail, l'une vivant le travail comme une nécessité, l'autre y trouvant le moteur d'une remise en question permanente, et deux sortes de créativité, l'une axée sur la fraternité, l'autre plutôt facteur de leadership. Quant à nous, nous avons essayé d'établir la valeur travail même lorsque celui-ci n'est pas axé de façon claire autour de la créativité. Se confronter au travail, plus particulièrement pour le travail du paysan, mais ceci est vrai pour tout travail, c'est se confronter au manque dans le monde. En faire une avoda, c'est comprendre que ce manque n'est pas accidentel, mais essentiel. La avoda, c'est donc faire quelque chose de ce manque sans le nier. La situation telle que prévue initialement par Hachem pouvait ou devait faire l'économie du travail, celui qui n'a de sens que dans une situation de manque, pour accéder directement à une avoda. Mais l'homme n'a pas voulu, n'a pas pu se maintenir à ce niveau-là. C'est pourquoi la troisième occurrence de Avoda, celle qui suit le renvoi du jardin, est laissée par les Chachamim dans son sens littéral. Pour autant, la finalité de l'Avoda n'a sûrement pas changé. C'est à nous, en tant que sujets faisant l'expérience du manque, que les Avot de Rabbi Nathan disent combien le travail est grand. Ils disent à nous cela en prenant appui sur la Avoda de Adam, celui-là même qui ne s'est pas montré à la hauteur. Ce qui a changé, c'est la nécessité qui est la nôtre de se confronter réellement, non plus imaginairement, au manque. C'est ce que nous faisons tous les matins en allant travailler, et c'est là-dessus que Rabbi Nathan nous dit « Gedola ha-melacha ». Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions. Donc si il y a quelques questions, on peut essayer de répondre avec Lothaire, Moshe et Vanessa. Ou Rav Grandstein. C'est pas un besoin, c'est un vécu, c'est une donnée. C'est une donnée de l'existence, ce manque. Et c'est à nous de faire en sorte de continuer à vivre avec. C'est une expérience première qu'on a fait tous. Pardon? De faire quelque chose avec, mais oui, il faut l'exploiter, mais on ne peut pas rester indifférent vis-à-vis de cette chose-là. On se positionne. On pourrait prétendre le nier, mais c'est cette attitude que nous avons jugée fausse. C'est Midrash. Ouais.
J'ai du mal pour comprendre en fait littéralement le travail que devait effectuer la Marichon et Gan Eden. Est-ce que c'est qu'on peut considérer que c'était un travail? C'est pas un travail.
Le travail que tel que le projet d'Hachem était défini, c'est pour Adam, c'était de prier. Donc la avoda première, c'est de prier.
Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas...
Prier.
À part une reconnaissance, et on avait fait un cours avec Rav Grandstein, puisque pour la reconnaissance, d'abord, il devait passer par un sentiment d'accaratateur. Donc là, d'accord, il peut prier pour remercier Hachem de les garder qu'il a, mais il n'y a pas de place pour le travail. Il y a une reconnaissance de placer au Gan Eden, mais on ne peut pas dire qu'il y a une place pour le travail.
Mais le travail, c'est la prière. Et puis il y a aussi la distinction entre Gan Eden et extérieur du Gan Eden. Il peut prier pour ce qui se passe à l'extérieur du jardin. C'est le jardin qui lui fait prendre conscience de cette abondance et de cette profusion. Et ayant vu cette chose-là, toute cette eau dans ces fleuves, toute cette verdure, il va prier pour que la même chose se réalise à l'extérieur du jardin. Là où l'on dit que les excroissances du champ n'avaient pas encore poussé.
Mais par exemple, pour essayer de faire le lien avec le premier cours de Rav Grandstein, pourquoi la Marichon de Gan Eden pouvait être créatif? Il a été fait à la ressemblance d'Hachem, il doit être une miniature d'Hachem, il doit essayer de ressembler à Hachem. À part la tefila pour dire merci à Hachem, tu m'as donné tout ce que j'ai, en quoi il peut être créatif? Il a pas. On dit que normalement l'homme doit terminer, il doit parachever s'il n'avait pas voté, il était dans une situation de parachever quoi que ce soit. Il avait juste une avoda à faire, mais j'allais dire presque honteusement, heureusement qu'il a voté, sinon il n'y avait pas n'y avait pas de nécessité ni d'être créatif, ni de parfaire la création de la chaîne. Il fallait juste qu'il reste à la hauteur où la chaîne avait placé.
Mais il y a quand même l'extérieur du jardin qui n'est pas.
Alors, ça, c'est une idée que j'ai une nouvelle pour moi, qui prie pour l'extérieur du jardin.
Parce que Rachid dit, à propos de Vaïtzmar, les Inyan Akatouv Medaber. On parle ici. L'Inyan Agan Akatouv Medaber. Il s'agit du jardin. Donc ça veut dire que Rashi fait la distinction entre ce qui se passe dans le jardin, où là c'est Vaïtzmar, avec ce qu'il y a à l'extérieur. Là visiblement c'est assez aride. Enfin, où ça reste en potentialité.
Je vais créer à ma manière l'homme ne crie crée pas à partir de rien, mais il est devant une situation où il n'y a pas, et lui, bon, on l'a fait pour l'inciter à s'intéresser à ça, au fait qu'il manque quelque chose, il a fallu qu'il expérimente l'abondance et la plénitude du Gan. Cette comparaison-là crée le manque, enfin, fait apparaître ce qui se passe à l'extérieur comme étant un état de manque. Et pour cet état de manque, lui, il ressent qu'il peut créer. Et c'est ce qu'Hachem fait. Pourquoi est-ce qu'Hachem l'a créé ? Pour qu'il crée. Il l'a créé à son image, ça veut dire créer l'homme pour que l'homme crée. Donc voilà la première situation où l'homme peut créer. Créer exactement, aussi exactement que possible à l'échelle humaine, c'est-à-dire que comme Hachem l'a fait, créer un jardin, créer le. Et ça, c'est la avoda, c'est là tout son travail. Mais je voulais faire une remarque, c'est utiliser l'expression rétablir l'équilibre. Pour le langage, je crois justement que ce n'est pas rétablir un équilibre.
Un état naturel.
Parce que c'est. En fait, on ne veut pas du tout combler ce manque. Et l'équilibre, ça veut dire que je vais combler le manque, remettre en équilibre. Non, ça va rester comme ça. Mon travail, c'est de remonter, mais je sais très bien que le monde, il est fait pour rester dans cette tension, dans ce déséquilibre, pour qu'on, Hachem veut qu'on continue qu'on prie, Hachem désire la prière de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il désire la prière de l'homme ? La prière de l'homme, c'est le travail de l'homme. C'est le travail créatif premier de l'homme. Ensuite, ça a dégringolé, en quelque sorte, et il a fallu faire d'autres choses comme travail que de prier. Et qu'est-ce que c'est que les korbanot, je me demandais au début pourquoi les korbanot. Korban, ça veut dire s'approcher de Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire s'approcher de Hachem ? Ressembler à Hachem. C'est le travail de korbanot, ça veut dire s'approcher de Hachem, être aussi proche que possible d'Hachem. Ça veut dire, bon, c'est pas une question de distance en millimètres, ça veut dire ressembler le plus possible à Hachem. Les korbanot, c'est ça, c'est cette démarche-là, vouloir ressembler, être aussi proche que possible, donc ressembler à Hachem, c'est ça le projet d'Hachem quand il crée le monde. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas marché, parce que, comme on dit comme David Amelak dit dans le Tehilim Kavdalet, qui est-ce qui peut monter à Hachem ou Miyakum, qui pourra se tenir? Alors Hachem l'a installé, il n'a pas réussi à se tenir à cet endroit-là. Maintenant il faudra remonter. Le travail il se fait sous la forme du remonter. On est passé du. C'est dans l'autre ordre. Miyakum, ça n'a pas marché. On est obligé de passer à Miyale qui va trouver les moyens de monter. Il faut monter comme Abraham et Avinu est monté, comme ce que vient à rapporter. Et quand on dit imaginer la possibilité, c'est imaginer donc la possibilité par rapport à un passé. Donc c'est un futur pour retrouver un passé, quelque part. Alors ça ressemble beaucoup à ce que dit le Rambam quand il décrit dans les Halakhot, quand il décrit le Mashiach. Dit que ce qu'on essaie de faire, de retrouver au temps du Mashiach, de retrouver la situation qu'il y avait au temps de David, qui est l'ancêtre du Mashiach. Quelque chose qui est un petit peu difficile à comprendre, parce que si on prend tel quel, c'est incompréhensible, on va se retrouver dans la situation de David. Mais c'est vraiment ça, cette idée, c'est que cette situation idéale, où la Avoda avait une certaine forme, la Avoda, quand David Amelak avait. Certaine forme, elle s'est dégradée, cette forme. On voudrait retrouver une forme qui était, qu'elle est décrite ici par le Rambam, la forme au temps de David Amelak. C'est ça le travail des temps messianiques. Pour arriver au temps messianique, c'est retrouver cette situation telle qu'elle était. Et Adam, quand il a été chassé du Gan Eden, ça veut dire qu'il est obligé de prier à l'endroit où. Prier et travailler au même endroit. Avant, il priait pour un autre endroit que celui où le travail devait se faire. Seulement, prier aussi au même endroit au sens où il priait dans le Gan Eden. Mais le travail de la terre, c'est-à-dire la transformation, avait lieu ailleurs. Et on comprend bien que si on le met dans le Gan Eden pour s'occuper, pour travailler à un autre endroit, alors qu'il n'y avait pas encore le télétravail, donc ça ne peut marcher qu'avec la prière. Alors, il n'y a que la prière qui est le travail qui peut marcher, alors qu'on prie ici et le travail se fait là-bas. C'est ça la forme de travail qui était spécifique à Adam Harishon, justement. Ce qui est important, presque pour nous aussi, c'est quand on prie, il ne faut pas prescrire à Hachem. Il ne faut pas lui dire je veux ça. Il faut dire on a besoin de dire la chose générale. Comment est-ce que je veux que tu me le donnes ? Pas tout à fait exact de dire que c'était prévu initialement par Hachem, c'était de faire l'économie du travail. C'est un autre sens du travail. C'est, bon, ça, vous pouvez dire, mais c'est pas l'économie du travail, c'est l'économie du travail physique, mais le travail par excellence, c'est le travail de la prière. Le travail de la prière, parce que c'est le travail de la parole.
Sur les deux sens, combler, pas combler. Enfin, je vais essayer de répondre. C'est pas parce qu'on veut construire le monde qu'on prétendra de manière automatique créer un monde parfait et achevé. Et puis de se dire, ça y est, j'en ai fini avec la construction de ce monde. On peut vouloir l'améliorer, l'aménager, mais ce qu'il faut, c'est ne pas perdre d'esprit que. Le manque, ça reste quelque chose d'essentiel.
C'est ça. Et il me semble que dans ce que tu as dit, vous avez dit qu'il y avait quand même ce risque permanent.
Oui, tout à fait.
Que le monde puisse, je sais pas, à travers la tour Babel, à travers
on vit
la tour Jean Nouvel, à la France, à travers plein de choses. Imaginez qu'on va effectivement nier l'inquiétude du monde. Ça, ça a l'air d'être un peu. Et le travail est au cœur de ça. En fait. même l'excès de consommation dans le monde. C'est un peu cette façon de lier ce déséquilibre auquel on est invité à dans lequel on est invité à se placer finalement pour prier, pour faire une aveu. Un peu comme ça.
C'est pas nier le manque, c'est s'imaginer qu'on peut le combler. C'est ça, ce que vous voulez dire nier le manque. C'est s'imaginer que mon travail va combler ce manque définitivement. Là où j'aurai passé, il n'y aura plus de manque. Même Hachem a créé en laissant un manque. Même Hachem, le monde qu'il a créé, il l'a créé avec un manque. C'est pas qu'il pouvait, lui, il aurait pu évidemment le combler, du coup on n'aurait plus de place. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous nous construisons comme créateurs de ce manque. Parce qu'il y a ce manque et qui est sans arrêt présent, on travaille sans arrêt. Nous nous construisons grâce à ce manque. Nous avons une place grâce à ce manque.
En général, on travaille pour combler un manque.
Oui, on travaille pour combler. Ah oui. On travaille pour combler le manque au sens. Mais pas s'illusionner qu'on le comble réellement. Le travail, c'est le sens dans lequel il faut travailler. Dans le sens d'un comblement du manque. Mais pas du tout parce qu'on va y arriver. Parce que dès qu'on aura comblé ça, il y aura. Puisque le manque est essentiel. À la limite, on peut aussi. C'est comme une ascension. C'est-à-dire quand je serai arrivé à cette hauteur-là, je verrai que s'ouvre un nouvel. Il y a derrière cette colline-là, il y en a encore une autre. Et après, derrière, il y a encore une. Quand je serai arrivé là, je verrai qu'il y a encore une autre porte qui s'ouvre. Donc ce manque, il est essentiel, il est tout le temps là. Il ne faut pas s'imaginer que voilà, j'en aurai terminé avec ça.
Les deux arrivent à
14. Alors, les deux alternatives que vous citez sont censées pouvoir aboutir au manque, à la compréhension du manque. Il y en a une qui a échoué et l'autre dans laquelle on est par la force des choses. Mais les deux ont le même objectif. Ce qu'on avait dit en préparant, c'est que dans le projet initial d'Hachem, on est placé dans une situation de plénitude et on doit imaginer le manque, c'est-à-dire ce que ce serait si Hachem ne m'avait pas mis là. Donc je vais créer un élan de reconnaissance envers Hachem, alors que dans la deuxième alternative, on est dans le manque, mais on imagine comment retrouver cette plénitude, mais on y reste. Mais à chaque fois, ce qui est demandé à l'homme, c'est de pouvoir arriver à sa compréhension. C'est deux manières d'arriver à sa compréhension. Je sais pas si... Moshé demande à ce que vous précisiez votre question. Qu'est-ce que ça veut dire que les deux démarches se rejoignent ? Alors non, on a des situations qui s'apparentent au Gan Eden, au souvenir du Gan Eden, mais l'écueil à éviter, c'est de ne pas se croire arrivé quand on est dans des situations là, et puis de continuer à avoir une reconnaissance envers celui qui nous a permis d'être dans cette position là, de continuer à imaginer ce manque là, même s'il en est dans une situation où il n'y aura a priori pas lieu de le ressentir. Mais ces situations existent.
Ça n'a pas existé. Je veux dire que même à la rencontre, quand il était dans le Gan, il savait qu'en dehors du Gan, ça ne poussait pas. Bon, ce qui lui était demandé, c'est reste dans le Gan, bien, mais occupe-toi de ce qui est à l'extérieur, prie pour ce qui est à l'extérieur, tu es responsable de ce qui est à l'extérieur, etc. Et donc, lui, dans la situation de sans manque, le manque qu'il avait à imaginer, on ne lui a pas demandé d'imaginer toute pièce d'ailleurs, parce qu'il en venait. Il a été tiré de cet endroit où ça ne poussait pas. Quelque part, c'est comme si, je veux dire, c'est ce qui lui permettait d'imaginer. Il a un souvenir, une espèce de souvenir qu'on lui a mis de sa naissance dans un endroit. Donc, quelque part, dans la situation où il est sans manque, il est avec le souvenir d'un manque, en tout cas, et la nécessité de s'occuper de ce manque. Donc, d'essayer de créer une situation où il n'y aurait pas de manque, c'est-à-dire de combler, de participer à l'œuvre d'Hachem et de lui aussi créer à sa manière. Donc, cette idée qu'il y aurait une situation où il n'y aurait pas de manque, on serait totalement dans un non-manque, je crois qu'elle n'a pas existé. L'autre situation, celle du Sinaï, au moment avant qu'on fasse la faute, on était dans une situation idéale, il n'y avait pas de manque à ce moment-là, mais en dehors du Sinaï, alors premièrement, on n'était plus qu'un tout petit peuple, et toute l'humanité était en dehors de cela. Donc il y avait le manque était là, sous la forme de le reste du monde n'est pas à ce niveau-là. Le reste du monde ne reçoit pas la Torah, il ne veut pas la recevoir. Donc quelque part, cette situation de sans manque, elle n'existe pas sans au moins le souvenir, ou donc un lien avec la situation du manque. On n'est jamais. Ça n'a jamais existé. On est en haut de la montagne, éventuellement déposé par hélicoptère sur la montagne, et je sais bien que dans la vallée ou ailleurs, il y a le manque, même s'il est sous forme de... même si c'est un souvenir, une imagination que j'aime à mise dans Adam Harishon pour qu'il s'en occupe. Si l'été Israël, ils sont dans une bulle, donc ils pourraient imaginer, voilà, tout le monde c'est la bulle. Voilà, on est en rapport avec Hachem. Bon, mais là-dedans, ils viennent aussi avec le souvenir de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte, donc il existe bien une Égypte. Même nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, l'histoire du Seder. On dit, Veilou, si Hachem ne nous avait pas sortis, bon, donc on fabrique le en dehors de nous. Supposons que c'est une situation de plénitude, parce qu'à ce moment-là, on décrit tout ce que Hachem a fait pour nous, etc. Et on dit, attention, mais s'il ne nous avait pas sortis d'Égypte, on aurait dit ça, et les Égyptiens, ils sont toujours là-bas. Donc je ne suis pas sûr que, si tu veux, les deux situations doivent converger, tu vois qu'elles n'existent pas, indépendamment l'une de l'autre. On a l'impression que l'une est toujours l'imagination de l'autre. Quand je suis à l'extérieur, il faut envisager la possibilité. C'est une possibilité qu'on a vécue d'une certaine manière de perfection. Et quand on est dans l'imperfection, il faut imaginer l'imperfection pour essayer de la travailler, de combler, en sachant, comme on le dit précédemment, que c'est incomblable. C'est-à-dire que on est toujours dans l'une ou l'autre des situations, et il y a nécessité pour que le travail soit possible, pour que l'homme puisse jouer son rôle, d'avoir conscience de l'autre situation. Je ne sais pas si tu crois, bon, si tu appelles ça un va-et-vient, mais... enfin, ouais, non, peut-être dans la pensée, quand je suis dans une situation, je dois penser l'autre situation.
De Moshe sur le sentiment qu'on peut avoir par moment d'être dans un îlot de plénitude. Est-ce qu'il n'y aurait pas un enseignement à tirer de l'expérience d'Adam Harishon dans le Gan Eden?
Est-ce qu'il a eu, lui, à un moment donné, le sentiment... Bah, si tu dis îlot, tu imagines que...
Voilà, les autres...
l'extérieur.
Voilà, mais dont il n'a pas forcément conscience.
Ouais, ça c'est cette idée de la bulle.
Oui, voilà.
Israël, vous pouvez penser, c'est tout le monde. Comme les filles de Lot s'imaginent que le monde, ben voilà, il est détruit. Mmh. On est trois. Alors, qu'est-ce que tu penses?
Peut-être, justement,
dans le fait de se soucier des autres.
On a une obligation de se soucier de l'autre.
Vivre la plénitude, la façon de vivre la plénitude, ce serait de se soucier des autres.
Le souvenir de la vie, le projet.
Pas pendant toute la vie. Oui,
des... Il y a un extérieur aussi.
Ouais. Et même ça, donc, que j'y repose.
Mais il y a des moments de plénitude qu'on ressent, des moments où on a ce sentiment-là. Est-ce que ces moments-là sont faux, c'est-à-dire qu'on se sent plein, on est dans une bulle et on ne devrait pas? Ou alors il y a quelque chose de vrai là-dedans? Pourquoi vous êtes là ce soir pour, enfin, je sais pas, pour étudier. Donc peut-être que vous avez cette idée-là du nourrissement du fœtus qui apprend sa Torah et que l'on recherche tous dans l'étude et la compréhension. Oui, il me semble. La halakha de Tzedaka.
L'imagination va au-delà de l'imagination
l'imagination a une grande part dans ce travail. Pas forcément.
Bien sûr, oui. Mais parce qu'il y a une âme imaginative. Sans imagination, rien n'est possible. Donc, l'imaginer, oui, il est mort. Tu vois que l'homme, il est mort.
C'est quoi le rapport entre la relation aux autres et la plénitude?
Oh, c'est leçon, c'est qu'on ne peut pas accéder à la fatalité si on n'a pas un souci du reste aussi. Il y a eu un arabe de Baal Tachri, par exemple. Même si le monde est à notre disposition, vous savez, Hachem, on ne peut pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas couper un arbre fruitier, etc., pour faire le siège, même si c'était le mitzvah d'attaquer les gens qui veulent ton mal, tu ne peux pas couper un arbre fruitier pour en faire des armes. Il faut que le monde fasse à mon service, il y a des limites.
S'il n'y a pas d'autres questions.
Non, juste un point, je ne suis pas certain d'avoir bien compris, mais que je trouvais c'est intéressant parce que vous refaisiez une distinction entre Melacha et Avoda. Alors là, dans un autre sens que ce qu'on avait exploré à d'autres moments, qui est de dire il y a un risque, enfin, dans la Melacha, je vois mon œuvre, et je peux en gros dire ça y est, j'ai accompli. Et que la Avoda serait sans arrêt façon de recreuser le sens et justement l'incomplétude de mon œuvre. Donc il y aurait un rapport là aussi de déséquilibre entre Avoda et Melacha pour que je ne fasse pas de l'œuvre de mes mains un objet de
culte,
de culte ou de croyance que ça y est, j'ai complété le monde. Mm-hmm. La Avoda serait une façon sans arrêt de recreuser le déséquilibre en quelque sorte qui est nécessaire. C'est un peu comme ça que tu le disais.
Quelle limite? Vous parlez de l'interdit de manger de...
Dans le Gan Eden, quand on est dans une éternité, il n'y a pas cette idée qu'il y a trop. Parce que il n'y a pas de limite de temps, si vous voulez. Pas au sens où une éternité qui serait un temps. La qualité du temps est telle que cette idée que je ne peux pas tout, je peux tout, puisque c'est à ma disposition. C'est pas important que. Sur le jardin et puis aussi pour ouvrir.
Plus de questions?
Ok, donc vous retrouverez ça bientôt sur nos lignes de la conférence de ce soir sur le site. Et puis donc on avance à partir de la semaine prochaine pour 3 séances, donc le dernier cycle de ce séminaire. J'ai pas la plaquette sur
le travail, une compromission. Le travail, une compromission.
Fermé.
Ah voilà. Stop.
Tu cours direction.